Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreyroux.
Bonjour, bonjour Pierre.
L'homme du jour hier, c'était Joe Biden. Prise de parole à Bruxelles, puis en Pologne. Les caméras du monde entier sont braquées sur le commander-in-chief comme s'il était là pour apporter une solution toute faite pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Or, pas du tout. Trois sommets ont eu lieu et quelles conséquences? Le retour en force des Américains est-il nécessairement positif? La souveraineté européenne est loin d'être sauvée. Explication sur tout cela dès le début de l'émission. Après un vol tout près du soleil, Emmanuel Macron n'est pas tombé en mer Égée. Les ailes de cire fondues par le soleil, non. Mais après l'envolée de ces dernières semaines, le président candidat recule dans les sondages pour revenir à une constante entre 25 et 29, ce qu'il avait plus ou moins connu à l'automne. Pendant ce temps, Marine Le Pen remonte et regagne sa place de challenger. À gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui tient la corde. Quelle suite à deux semaines du premier tour? On voit ça dans nos carnets de campagne. Et puis la Corse, hier, funérailles sous haute tension d'Ivan Colonna. Le risque de débordement a été évité, mais la foule était bien présente, affichant des drapeaux indépendantistes. Autre détail technique, les drapeaux français sur l'île avaient été mis en berne lors de l'annonce de la mort de l'assassin du préfet Erignac, ce qui a provoqué la colère au plus haut niveau, notamment d'Emmanuel Macron. Quelle suite pour la Corse? Est-ce un tournant auquel on assiste? Nous nous poserons la question en fin d'émission. Vous avez le programme, les grandes voix, c'est parti. Et donc, c'est un triple sommet, OTAN, G7, Union européenne, que Joe Biden a assisté alors que l'Ukraine entre dans son deuxième mois de guerre. Trois sommets, Gérard Carreyroux, avec quelles conséquences et quelle efficacité surtout?
L'efficacité, on va voir, mais ce que j'ai envie d'appeler les trois jours que nous venons de vivre, de la manière suivante, j'ai envie d'appeler ça « Et soudain, Joe Biden se réveilla ». Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que avant la guerre, dans les semaines qui ont précédé le conflit, on a eu des sources américaines des services de renseignement qui ont donné des indications extrêmement précises sur la menace russe, sur le déploiement, sur les hommes, là où ils étaient, combien. Et bon, formidablement formés. Et normalement, quand il y a des choses aussi précises, on pouvait attendre que le Pentagone, que la Maison-Blanche bougent un peu. Et là, on a eu effectivement à trois reprises un Joe Biden, président des États-Unis, qui a dit « bon, mais c'est possible qu'il y ait un petit conflit, une petite guerre », mais en fait, ça a été interprété par tout le monde, et bien évidemment par Poutine, comme une sorte de, sinon feu vert, mais au moins un feu clignotant orange. Vous pouvez y aller, il n'y aura pas grand-chose. Alors, et ça, c'est ce qui a perduré. Et là, tout d'un coup, on a exactement le contraire. On a un Joe Biden réveillé, omniprésent, qui va de Bruxelles sur le champ de bataille, quasiment à quelques kilomètres de la frontière polonaise, qui annonce qu'il avait dit qu'il n'y aura pas d'hommes sur le terrain, no boots on the ground. Tout d'un coup, il y a 100 000 boots on the ground, 200 000 même, parce que chaque soldat en a deux. Hein,
deux cent mille soldats, en tout cas.
200 000 bottes, donc. Tout d'un coup, il y a ça. Tout d'un coup, il y a une promesse formidable pour l'Europe de 15 milliards de mètres cubes de gaz, etc. Et on a l'impression que... Et alors, on a une déclaration idéologique, je terminerai sur la déclaration idéologique, extraordinaire. L'offensive n'est pas seulement militaire ou économique. Biden nous dit, nous sommes, nous les Américains, la première ligne de défense du monde libre et de la démocratie contre l'autocratie. Et il dit ça à plusieurs reprises devant les soldats, en ajoutant quelques réflexions. Alors là, c'est un peu le contraste du personnage. Oui. Il radote un peu. Je dis ça parce qu'il nous parle de son grand-père et de sa grand-mère. Il nous parle de son fils avec qui, pourtant, il avait eu des démêlés. Et
qui va être décoré.
Mais enfin, bon,
et qui faisait des affaires avec l'Ukraine.
Ouais. Il nous parle de tout ça, mais l'essentiel à retenir, c'est quand même que tout d'un coup, l'Amérique semble sortir de son silence, lourd silence.
Catherine Ney.
Oui, moi, quand j'ai vu la conférence de presse entre Mme van der Leyen et Joe Biden, c'est vrai que je l'ai trouvé réveillé, très alerte. Mais j'ai vu un vendeur qui, au nom de la morale, puisqu'il parle de morale, vient nous vendre son pétrole et dit « Laissez donc le gaz et le pétrole russe et venez chez nous et le gaz, on va vous en apporter ». Il s'annonce déjà 15 milliards de mètres cubes liquéfiés chaque année qui va arriver par bateau. Parce qu'il dit, l'essentiel, c'est de vous débarrasser du gaz russe d'ici 2025. Donc, il a raison de dire 2025 parce que ça ne va pas être si facile que ça, notamment pour les Allemands. Et il dit, voilà, c'est moral et nous allons travailler ensemble pour faire promouvoir l'hydrogène vert. C'est une coopération entre la Maison Blanche et l'Union européenne. C'est un choix moral. Et pour que chacun lutte à armes égales, il a accepté pour les Européens de baisser les droits de douane sur l'aluminium. Vous voyez, des choses comme ça, il va... Donc, il est en train... Moi, je l'ai vu comme un vendeur qui allait quand même faire des profits. L'OTAN vend les armes à tout le monde. Et là, maintenant, on vend le pétrole. Et donc, eh ben, voilà, les Américains sont les rois du pétrole et du gaz. Donc, je ne sais pas si c'est du gaz de schiste.
Ah ben, bien sûr que si.
Bien sûr le que
gaz,
si.
C'est le fameux gaz de schiste.
Mais est-ce que c'est une majorité de gaz de schiste que nous nous défendons d'exploiter chez nous? Voilà.
Mais c'est bien sûr le gaz de schiste que Trump avait lancé et pour lequel il a été tellement critiqué par nos écologistes, mais pas seulement les écologistes,
Charles Villeneuve.
Interdit en Europe.
Charles.
Mais moi, j'attendais autre chose du président des États-Unis, notamment qu'il parle aussi de paix, parce que ça se passe où ? Ça se passe en Europe, à nos portes, loin des États-Unis, loin de Washington, de Miami, ou de Los Angeles, ou de Boston. Ça se passe en Europe. Ça se passe d'autant plus en Europe qu'il semble que le rêve impérial de Poutine est en train de tourner au cauchemar, parce qu'il y a une situation militaire, manifestement, il ne faut pas s'y tromper. Il ramène ses troupes autour d'un objectif, le Donbass, qu'il a quasiment déjà récupéré en 2014, de la même manière qu'il avait annexé la Crimée. C'est vrai qu'il a un problème, c'est de faire la jonction avec la Crimée, avec le port de Mariupol et l'autre port d'Odessa par lequel l'Ukraine exporte toutes ses matières premières, notamment le blé. On a déjà traité d'ailleurs ce sujet ensemble la semaine dernière, mais il n'empêche qu'il est omniprésent, d'autant que on peut déboucher sur des émeutes de la faim partout en Afrique du Nord. Il ne faut pas l'oublier, où on consomme beaucoup de pain, et aussi en Égypte, où ça commence à remuer, etc., etc. Et donc, moi, j'attendais aussi qu'on parle des causes de cette guerre et qu'on y mette fin en essayant d'y mettre fin, et notamment de paix, de diplomatie, parce que rien ne pourra se faire, bien évidemment, et je pense que Gérard sera tout à fait d'accord avec moi, lui qui connaît très bien les États-Unis et leur diplomatie, rien ne pourra se faire sans les États-Unis. Il est bien évident. D'autant que, manifestement, Poutine ne peut pas ne pas enregistrer au moins un ou deux succès militaires. Il ne rentrera dans la voie diplomatique qu'après un ou deux succès militaires, puisque le tronc central de la nation même russe, c'est l'armée. Et il l'a remis de toute façon au centre justement des préoccupations et de la vie civile, politique de la Russie.
Alors, sur le côté opérationnel, il a effectivement peu abordé la paix, mais en tout cas, il a dit qu'il y aurait une réponse de l'Alliance en cas d'utilisation
mais justement,
d'armes chimiques.
En dehors du parapluie de l'OTAN, pas de salut. Or, moi, je ne suis pas tout à fait... Bien sûr qu'il y a une émergence de la conscience collective européenne, mais je demande à voir parce que les intérêts ne sont pas tous les mêmes en Europe.
Oui, je voulais juste ajouter un petit... Alors, j'ai décrit, au fait, l'évolution, mais je n'ai pas répondu à la question. Pourquoi ont-ils, comme ça, brusquement, pourquoi est-ils sortis du bois
de leur
cette manière ? Alors, premièrement, première hypothèse, d'abord, ils ont toujours les mêmes bons renseignements militaires. Et je pense que ce qui se passe sur le terrain, dont on n'a pas encore parlé, dont on va parler, tu l'as abordé, Charles, déjà esquissé, mais ce qui se passe sur le terrain joue probablement... Les Américains se disent, maintenant que les Russes sont en difficulté, c'est sans doute le moment de foncer, première chose. Et puis deuxièmement, j'ai donné des coups de fil un peu aux États-Unis. Il y a quand même une opinion publique américaine, vous savez, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a d'autres soucis là-bas. Bon. Elle se réveille doucement mais lentement. C'est un peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu un certain temps aux présidents américains successifs, pour la Première puis pour la Deuxième Guerre mondiale, pour convaincre une opinion politique qu'il fallait à un moment donné se mobiliser.
Il a fallu par l'arbour.
Il y a ça, effectivement. Et puis, il y a aussi une raison, c'est qu'il y a quand même une raison prosaïque. Il y a dans 7 mois aux États-Unis les fameuses élections de midterm. Or, le vieux réflexe, disons, de la guerre froide anticommuniste, peut-être que Biden pense que ça va marcher. parce que sinon, il est en grande difficulté électorale.
Je suis entièrement d'accord avec Gérard.
Et là, ça pousse beaucoup et cet engagement n'est pas étranger à
bien
ça.
Bien entendu.
10h18, on marque une pause, Catherine Ney, et je vous donne la parole juste après.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1 ce matin, Gérard Carrérouge, Charles Villeneuve et Catherine Ney, Joe Biden qui assistera ce matin à Varsovie, une rencontre avec deux ministres ukrainiens, précise la Maison-Blanche. Catherine Ney, sur Joe Biden justement.
Oui, Joe Biden, vous savez, il a été celui qui faisait annoncer par le Pentagone qu'une guerre était possible quand personne ne le croyait. On se disait, les Américains sont des pousses au crime. Et comme vous le dites, tous les deux, ils sont très très bien renseignés, les Américains. Mais il a dit aussi, nous, de toute façon, on n'ira pas. Donc, c'était une sorte de feu vert pour Poutine, qui a dit, bon, ben, les Américains, maintenant, ils pensent qu'à la Chine, ils sont loin. Mais là, avec la bombe à phosphore qui a été utilisée, mais peut-être avec une dose de phosphore qui n'est pas aussi létale que, par exemple, celle qu'ils ont utilisée à Alep ou ailleurs, où là, c'est épouvantable. Mais là, Biden a dit, attention, attention. Là, il y a des lignes à ne pas dépasser. Il y a des lignes rouges. Et donc, il menace Poutine. Alors, le problème pour Poutine, est-ce qu'il peut croire aux menaces d'un président américain? Parce qu'il y a Obama qui avait déjà dit en Syrie que l'utilisation de l'arme chimique, alors là, ça serait vraiment la ligne rouge et qu'il n'y a pas de dépasser et qu'il y aurait une réponse. Et il n'y a pas eu de réponse. Donc, est-ce qu'il fait vraiment peur à Poutine? Hein, parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est les Américains? Bon. Et puis, je dirais que pour cette vente pour remplacer le gaz russe, bon, c'est sûr que ça va plaire aux vendeurs, aux exploiteurs privés de gaz américain. Mais je veux dire, quand on dit, Madame von der Leyen qui dit pour le prochain, maintenant vous travaillez à notre indépendance, est-ce qu'on est si indépendant que ça quand on se met dans les mains des Américains pour dépendre de son gaz? Parce qu'aujourd'hui, c'est Biden. Dans 2 ans ou 3 ans, c'est peut-être Poutine qui va, pardon, Trump qui va revenir. Mais Trump, pardon, excusez-moi. Mais avec un Trump, voilà, qui a toujours dit qu'il voit par le biais économique. Ouais. Si jamais il voit qu'il y a les Européens font pas ce qu'ils veulent, ils disent, ben nous, on peut vous couper le gaz. Et ça, les Américains, ils sont très capables de le faire.
Oui, mais là où on parle de souveraineté européenne, en fait, on n'y est pas.
Ce que tu dis, c'est effectivement, je le pense tout à fait, comme toi. C'est éventuellement passer d'une souveraineté à une autre.
C'est ça.
C'est-à-dire
d'une dépendance
plus
et plus
exactement.
De souveraineté européenne.
La dépendance au pétrole et au gaz russe, que les Allemands avaient largement utilisé pendant les 30 dernières années, alors, eh bien, cette dépendance-là peut devenir une dépendance. Maintenant que les Américains ont acquis, grâce à Trump d'ailleurs, l'autonomie énergétique en gaz et en pétrole, ils peuvent parfaitement être tentés d'avoir la main sur...
Je pense que c'est un accord qui est peut-être momentané, vous voyez.
Parce que, bon, mais le momentané qui dure...
écoutez, vous voyez les Allemands qui recevaient le gaz directement, et c'est pour ça, non pas les infrastructures, parce que si le gaz qui viendra des États-Unis par bateau sera liquéfié, après il faut le regazifier. Les Allemands ne peuvent pas.
Il faut des installations
qui ne sont pas faites. Il faut plusieurs années. C'est pour ça que Biden dit 2025. Bon. Mais d'ici 2025, peut-être qu'on sera réconcilié avec les Russes. Vous savez, tout peut se passer.
Oui, non, mais
sur le terrain.
Restons par rapport à ce qui a été dit et pas de spéculation parce qu'on n'en sait rien.
On n'en sait rien.
Bon. Si on s'en tient aux mots, notamment du président des États-Unis, qui annonce qu'il y aura une riposte de l'OTAN si les Russes utilisent des armes chimiques, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans le bombardement d'Alep, en Syrie, il ne faut pas l'oublier, ça. Oui. Puisque normalement, ils ont signé un accord, me rappelait tout à l'heure Gérard, qui fait qu'on doit se débarrasser de toute dotation d'armes chimiques, ce qu'ont fait la plupart des pays européens, les Anglais, les Français, les Allemands, etc. etc. Bon. Mais si on s'en tient aux mots, aux déclarations, il promet une riposte de la même nature que celle utilisée par les Russes. Ça veut dire que la Russie et l'OTAN sont sur le point de s'affronter. C'est ça. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a évoqué aussi, Poutine, l'utilisation de l'arme nucléaire tactique du champ de bataille, c'est-à-dire limitée au champ de bataille. Mais limitée au champ de bataille, une arme nucléaire tactique, c'est de la puissance de celle utilisée par les États-Unis à Hiroshima.
Oui, au moins.
Vous vous imaginez des conséquences d'une arme nucléaire tactique du champ de bataille. Donc cette dynamique de guerre, de toute façon, il faut la briser, parce qu'il faut bien se dire que quand on voit les milliers de gens sur les routes de tous les pays de l'Est, notamment, qui appartiennent à l'OTAN, la Pologne notamment au premier rang, puisqu'il est allé jusque la ligne de front, c'est-à-dire la frontière que la Pologne a avec l'Ukraine. Donc, il faut raison garder, il faut se calmer.
7 habitants sur 10 en Pologne pensent que ça va arriver chez eux, le conflit.
Je rappelle que les capacités offensives de la Russie ont été mises en échec par la résistance farouche, inattendue, de l'Ukraine.
Oui.
Mais il faut aussi se souvenir, tout à l'heure Gérard y a fait allusion...
Sur la formation.
Sur le renseignement. Il faut savoir que les États-Unis, depuis 2-3 ans, ont formé un nombre important de sous-officiers et d'officiers ukrainiens. Ils les ont armés. Vous avez pu remarquer que dans le ciel de l'Ukraine, il n'y a pas d'avions russes, de chasseurs-bombardiers. On tire avec l'artillerie et avec les missiles à distance. Les missiles de croisière, notamment.
Ils ont un savoir-faire là-dessus.
Ouais. Absolument. Et d'ailleurs, l'un des reporters envoyés par BFM TV à Kiev, Nicolas Poincaré, pour le citer, et avait remarqué, il était à Kiev, que finalement, il n'y a pas de réel bombardement de la ville. Ils sont très sporadiques. Donc, il ne faut pas non plus exagérer le tableau. Simplement, aujourd'hui, l'avancée de l'armée russe est en échec. C'est la raison pour laquelle il les rassemble, il les rameute sur le plan logistique, et sans doute, il va repasser à l'action, parce qu'il ne peut pas se contenter de cet échec, Poutine.
Sur les pertes, justement, Charles, il y a une chose qui m'a frappé. On a dit, depuis le début de cette guerre, qu'il y avait 200 000 soldats russes avaient été déployés. 200 000 déployés, ça veut dire même pas 100 000 qui sont sur le terrain combattants, parce qu'il y a tous ceux qui font de la logistique, les camions, tout ce qui vient derrière. Donc disons qu'il y en a à peu près la moitié qui sont des combattants. Et s'il y a eu, effectivement, comme semblent plusieurs sources maintenant,
le pourcentage de pertes,
s'il y a eu 10 000 soldats russes morts dans cette guerre, ça représente
10 à 12 000,
des pertes à hauteur de 10% de l'effectif combattant.
Oui,
oui. C'est considérable. Pensez
plus,
à
plus
ça.
40 000 hommes.
Mais quand, d'ailleurs, la voix officielle russe dit qu'il y a 1531 morts, c'est aussi s'il s'adresse à l'opinion publique. Et d'ailleurs, tous les cercueils ne reviennent pas pour l'instant. On les avance un peu.
Non, parce qu'il est obligé de traiter Catherine avec le réseau des maires.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire les mères de famille.
Mais dans ces cas-là, c'est aussi crédible que quand la Chine ferme des villes entières et dit qu'il y a seulement 1500 morts du Covid.
Juste un renseignement précis.
On ne dit pas la vérité.
Un petit mot, Charles,
le 21 mars,
apparemment, publicité.
Le quotidien russe Komsomolskaya Pravda, très proche du Kremlin, a publié sur son site internet un bilan. 9861 morts et 16153 blessés. Affirmation très vite retirée par le journal, proche du Kremlin, je le rappelle, sous prétexte qu'ils avaient été piratés. Non, c'est le vrai bilan, le 21 mars. Et d'ailleurs confirmé par les satellites et les hommes au sol des Américains. Parce que dans les Ukrainiens, les formateurs sont souvent d'origine américaine.
10h29, ce sont les grandes voix. On revient dans un instant, on parlera encore de l'Ukraine et bien sûr de nos carnets de campagne. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Un petit mot de l'Ukraine quand même, avant de passer à nos carnets de campagne. Charles Villeneuve, on n'a pas parlé des entreprises françaises.
J'ai été quand même abasourdi d'entendre le président, le président ukrainien Zelensky, quand il s'est adressé aux assemblées françaises.
À l'Assemblée mercredi.
Oui. Ne dénoncer, c'est la première fois qu'il dénonçait des entreprises et uniquement françaises, d'ailleurs, qui devaient se rapatrier et fermer leurs portes
en
Russie. Je vous rappelle simplement que le premier employeur étranger en Russie, c'est les Français. Il y a près de 150 000 salariés qui seront au chômage si nous fermons tout. Le roi Merlin résiste, mais Renault
suspend.
Plie bagage. Et comme par hasard, il n'y a que des entreprises françaises. Pourquoi Zelensky n'a pas de toute façon dénoncé aussi des entreprises différentes
Oui, mais enfin, les Allemands sont aussi implantés en Russie et devant le Bundestag, là, il a plutôt parlé, Il a demandé au chancelier d'être courageux, de faire tomber un mur, parce qu'au départ, les Allemands lui avaient envoyé des casques et rien d'autre, et ont mis du temps à lui envoyer des armes. Donc, pour chaque pays, il a un message différent. Il fait de la morale, il les secoue. Enfin, c'est vrai qu'il voudrait aussi que Total parte. Et le monsieur Pouyanné a dit qu'il n'est pas question de laisser les infrastructures après aux oligarques. Hein. Donc, c'est très bien. Et puis ça, sur le gaz, c'est une décision d'État. Il dit, moi, je ne m'en irai que si l'État me le demande. Et là, Emmanuel Macron, qui trouve que Renault, c'est cohérent de s'en aller, mais là, il ne dit rien sur Total.
Oui, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est qu'allons jusqu'au bout de la logique de ce qu'on vient de dire, de ce que Charles a dit sur Zelensky. C'est à la fois un homme admirable, un patriote qui restera dans l'histoire, effectivement, comme le
héros
grand
de la nation,
de sa nation. En même temps, on ne peut pas empêcher qu'il y a des pesanteurs politiques et économiques qui font que cet homme, aujourd'hui, est largement dépendant, ne serait-ce que pour le soutien militaire, le soutien des missiles des États-Unis d'Amérique, et qu'il son exigence est à la hauteur, effectivement, de cela. C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, lui sont beaucoup moins importants. Donc, on peut se permettre d'être très exigeant avec les Français. Mais je trouve que là, le président de la République a été plutôt... Alors, il a fait du en même temps. Puisqu'il a fait un coup pour Renault et un coup pour les autres. Ouais. Mais je pense que beaucoup de boîtes américaines, pétrolières notamment, sont encore loin d'avoir complètement quitté le champ.
Alors que Jadot dit, regardez, donne des leçons, traite Total de criminel de guerre, les Américains qui sont là, les trois marques américaines qui sont là, ont dit qu'ils envisageaient de partir depuis longtemps parce qu'ils n'ont pas les contrats qu'ils voudraient. Mais pour l'instant, ils prendront leur temps et n'en partiront pas.
Alors, passons à nos carnets de campagne, si vous voulez bien. Carnet de campagne, non pas de compagne, ça n'a rien à voir. 10h35, avec un coup d'œil sur les sondages. D'après le dernier Rolling Ifop d'hier à 18h, nous sommes à 28% pour Macron, 20,5% pour Marine Le Pen, 14% pour Mélenchon, 11,5% pour Pécresse, 11% pour Zemmour, 5% pour Jadot, 3,5% pour Roussel, 2% pour Hidalgo. Donc, en résumé, un reflux d'Emmanuel Macron, une remontée de Marine Le Pen. Ce duel d'ailleurs se confirme au second tour et une dynamique Mélenchon qui apparaît comme le troisième homme, Gérard Carreau.
Oui, en fait, de ces sondages quotidiens, c'est d'ailleurs extraordinaire cette campagne, puisqu'on a tous les jours maintenant un nouveau sondage.
On appelle ça les Rolling.
Mais ces Rolling qui ne sont pas Stone, c'est dans ces, Rolling, nous avons.
Il fallait la faire, merci.
Nous avons,
Satisfaction.
Non, nous avons.
On va la passer.
Soyons sérieux, nous avons un double mécanisme de vote utile qui. Avantage pour l'instant, alors ça peut encore changer dans les deux semaines, mais un double mécanisme de vote utile qui avantage Marine Le Pen à droite, incontestablement, et là elle bénéficie effectivement de gens qui étaient plutôt pour Zemmour ou pour Pécresse, qui voyant effectivement les scores de Zemmour-Pécresse autour de 10 points, 10-11 pour l'un ou pour l'autre, ça va, ça vient, mais peu.
Mais pourquoi vous dites vote utile? Ça veut dire que c'est un mélange de Pécresse et de Zemmour,
utile.
Marine
Écoutez,
Le Pen.
Essayez de vous mettre une seconde, je ne vous demande pas si c'est... Mais dans la tête d'un électeur de Zemmour, par exemple.
D'accord.
Un électeur de Zemmour qui a cru, formidable, Zemmour, etc., l'émigration, machin. Il voit aujourd'hui Zemmour à 11 points et il voit Marine Le Pen à 20 points. Et il se dit quand même, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Je fais réélire Macron? Ou quand même, c'était pas mon chouchou, j'aime pas trop Marine Le Pen, mais quand même, elle est plus proche de moi. Donc, et c'est ça le mécanisme de vote utile. Et chez Mélenchon, c'est symétriquement la même chose. Vous avez des... Je l'ai souvent dit ici, il y a un peuple de gauche. Peuple de gauche, il a une demi-douzaine de candidats. Il en a à 2% comme la maire de Paris, et puis il en a à 6% comme Jadot, et il a Mélenchon. Il se dit, au moins, si je pouvais espérer qu'un candidat de gauche arrive vers le deuxième tour, du coup, il a tendance également à ce vote utile à gauche.
Charles.
Oui, moi, je voudrais faire deux remarques. D'abord, sur le relatif tassement du président de la République, qui est parti de
jusqu'à 35,
pic de 31-32% et qui est revenu à 27-28. Oui. Moi, je trouve que ce petit tassement provient d'une désinvolture, d'un désintérêt des grands sujets habituellement qui font le menu des présidentielles, et qui forge le sentiment que le candidat Emmanuel Macron ne prend pas au sérieux ce qui est la clé de voûte du régime présidentiel. C'est le président de la République, c'est quand même, si j'ose dire, le taulier du régime. Et ce taulier, de toute façon, ne traite pas des affaires internes, des affaires de ses ouailles, c'est-à-dire des affaires du peuple français, par rapport à cette élection qui est l'élection quand même impériale, en quelque sorte, du système politique français, c'est-à-dire les élections présidentielles. Et ça touche une dimension psychologique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'interroge, et je pense que même au sein de La République En Marche, on s'interroge sur l'inactivité, en quelque sorte, du président par rapport à tous ces grands sujets.
Qui justifie par son agenda international, par la guerre en Ukraine.
Voilà. Et ce que disait... Bon, on peut comprendre que son agenda international, de toute façon, l'occupe, certes. Ouais. Mais il y a quand même les élections présidentielles. Nous sommes à moins de 15 jours de ces élections présidentielles du premier tour. Et ce que disait sur Marine Le Pen, Gérard, elle profite de sa bonne campagne, de son expérience des présidentielles et surtout d'avoir très très bien axé sa campagne sur le pouvoir d'achat et les questions sociales. Et de la même manière que Mélenchon a réussi, malgré la guerre, malgré toutes les préoccupations que nous avons sur le plan international, à ramener sur les questions sociales, avec son talent, qu'il ne faut pas oublier, son expérience lui aussi, comme Marine Le Pen, de toute façon, à des scores qui sont aujourd'hui, qui constituent une dynamique.
Catherine Ney.
Oui, Marine Le Pen, qui est à 20%, et 20,5%, et Emmanuel Macron, montre qu'elle a un socle qu'elle a conservé, même qu'elle a amélioré, en choisissant une stratégie de deuxième tour, de rassemblement. Et j'avais vu son père qui m'avait dit, mais finalement, à un moment où Zemmour était très haut, il avait dit non, parce que maintenant, pour les gens, l'extrême droite, c'est Zemmour. Donc, elle ne fait plus peur. Bon, elle est encore handicapée par le fait qu'elle s'appelle Le Pen et que c'est une immatriculation qui pèse lourd. Mais là, elle a fait une campagne pour les gens de terrain, c'est-à-dire celle que ne fait pas le président, mais pour des raisons, il a quand même des excuses. Et on voit dans les intentions de vote par catégorie socio-professionnelle, vous voyez, les CSP+, on disait là, elle est très mauvaise. Mais elle a quand même 14,5%. C'est plus que Zemmour qui a 12 et plus que Pécresse, qui pourtant, elle, CSP+, voyez.
Oui.
Bon, dans les professions intermédiaires, elle fait 16%, alors que Valérie Pécresse fait 7,5% et Zemmour 11%. Et sur les CSP-, qui était son... c'est vrai qu'elle fait 30%, Valérie Pécresse 5% et Zemmour 13%. C'est-à-dire que devant toutes ces catégories socio-professionnelles, elle est devant.
Alors que tu l'as sûrement sous les yeux, Catherine,
oui.
Alors que le président de la République a son socle lui aussi, mais son socle, effectivement, est très différent sociologiquement.
Il est inversé.
Oui. C'est-à-dire que si tu prends les catégories ouvriers, employés, petite classe moyenne, etc., tu t'aperçois qu'il
c'est
est,
de la pyramide.
Il est en faiblesse.
Exactement. 10h41, on marque une pause et on revient dans un instant avec nos carnets de campagne.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec aujourd'hui Catherine Ney, Gérard Kerrérou et Charles Villeneuve, Michel Cotta, bien sûr, nous la retrouverons avec grand plaisir la semaine prochaine. On parlait de nos carnets de campagne, on a parlé de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Il y a quand même deux phénomènes qui étaient tout en haut. À l'automne, souvenez-vous du phénomène Zemmour et puis de la percée Pécresse, là, Charles Villeneuve, tout d'un coup. C'est plus que c'était.
Bon, mais Pécresse ou Zemmour?
Je ne sais pas.
Les deux.
Commencez par... qui vous voulez.
Écoutez, moi, Pécresse, elle fait la campagne présidentielle à l'identique de ce qu'elle est, je trouve.
C'est-à-dire ?
Sérieuse, gestionnaire, excellente débatteuse, le prototype de la bonne élève, celle que nous avons tous côtoyée à l'école communale, si vous voulez, qui était toujours dans la botte.
Mais elle ne crève pas l'écran. Ouais.
Oui, non, mais celle qui se classe toujours dans les trois premières au concours d'entrée des grandes écoles, qu'elle a fait d'ailleurs, mais sans vision de la France, sans flamme. Sans idée directrice. On ne sait pas exactement sa vision de la France. Parce que l'élection présidentielle, il faut toujours une idée par rapport à ce qu'on veut faire, centrale, qui structure votre discours. Et quant à Zemmour, sa ligne de départ consistait, rappelons-nous, à être le trait d'union entre les Républicains et toute la droite, et le Rassemblement national. Or, moi, ce que je ne m'explique pas chez lui... c'est une énigme parce qu'il est suffisamment structuré, intelligent, cultivé pour le savoir. C'est qu'il a passé 20% de son temps à déraper. Et c'est ce qu'il a profondément
affaibli.
Parce que
la politique est un métier, monsieur.
Oui, non mais peut-être qu'il est plus idéologue que politique. Bah, oui.
Est-ce que Valérie Pécresse a eu tort de se positionner sur une campagne contre? C'est-à-dire que, souvenez-vous, ses premiers élans, ça a été Emmanuel Macron est le président ou le candidat du plaire, moi je suis la candidate du faire.
Ça ne voulait pas dire, franchement, entre nous,
ça c'est pas une vision de la France.
Ça ne voulait pas dire grand-chose, ça. Je suis le candidat du faire. Tout le monde fait quand on est président, est bien obligé de faire. Donc, ce qui, dont elle ne s'est jamais remise, c'est de cette idée, depuis le début, c'est comme ça. Depuis le début, on dit qu'elle pourrait être, au fond, elle ferait une bonne première ministre d'un Macron réélu. Et cette image, ça veut dire quoi quand les
gens
pensent
ça? Il y a eu des exemples comme ça dans le passé aussi.
Ça veut dire qu'il y a une telle ressemblance. On parlait tout à l'heure de la sociologie de l'électorat avec Catherine. C'est très exactement quand on regarde la sociologie de son électorat potentiel, de ceux qui l'aiment bien, de ceux qui l'apprécient, on retrouve les mêmes valeurs que pour Macron. Et ça, effectivement, dans une élection où il y a des candidats qui ont des marqueurs très forts anti, genre Zemmour ou d'autres, effectivement, ça ne lui facilitait pas la tâche. Quant à Zemmour, effectivement, il a été victime de Poutine et de lui-même. De lui-même d'abord par toutes ses erreurs répétées, notamment la dernière en date sur les enfants, sur les réfugiés, et de Poutine, parce que le positionnement de Zemmour disait en géopolitique sans arrêt qu'on devrait se rapprocher de la Russie. Quand la Russie fait la guerre à l'Ukraine, ça tombe à plat.
Catherine.
Oui. Moi, je crois le problème de Valérie Pécresse, parce qu'elle a eu un moment de grâce le soir de son succès à la primaire, où elle n'était pas arrivée première, mais là, elle était un peu transfigurée. Il y avait un moment de chaleur où tout le monde était autour d'elle et on s'est dit, tiens, ça va faire une équipe, elle va choisir et on va enfin la connaître. Eh bien, les Français ne l'ont jamais rencontrée parce que d'abord, ils ne la connaissaient pas au départ. Mmh. Ça, c'est vrai, elle est parisienne. Donc, ils se sont dit, bien sûr, c'est une femme capable, mais qui est-elle? Elle n'a pas donné d'elle-même. On ne sait pas quelle est la personnalité. C'est une jolie femme, mais qui n'a pas ce charme qui vous attire et qui vous emmène vers elle. Parce que d'abord, elle a manqué, non pas d'humilité, mais quand elle a dit pour son premier discours raté, où elle dit maintenant, je dois me donner au peuple de France. Bon, encore faut-il que le peuple veuille, vous voyez, on ne se donne pas comme ça. Donc elle a un peu raté parce qu'elle a cherché des mots, elle n'avait pas été elle-même. Et voilà, et je crois que c'est ça, c'est un grand ratage de communication, sinon de compétences.
Hier, dans ce studio, Éric Woerth, qui a rejoint Emmanuel Macron, me disait Valérie Pécresse, j'y crois pas parce qu'elle est otage d'Éric Ciotti et de Laurent Wauquiez. Oui? Non?
Non, je crois qu'elle est otage d'elle-même parce qu'elle n'est pas sortie, elle n'a pas sorti ses tripes. Voilà, elle a été toujours, c'était à l'étage supérieur, elle a été dans l'intellect et on n'a pas senti la patte humaine de cette femme. Voilà. Vous voyez, Marine Le Pen, au bout de trois fois, on sait qu'elle en a bavé, qu'elle a souffert, qu'elle recommence. Il y a un parcours qui fait partie de ces vieilles bêtes politiques auxquelles les gens disaient c'est peut-être son tour. Enfin, je ne dis pas du tout qu'elle va être élue, je ne dis pas ça, mais c'est ce qui lui permet de remonter alors qu'on croyait qu'elle allait descendre.
Mais la minute de grâce que tu rappelais de la soirée, effectivement, où elle a gagné la primaire, a été immédiatement lessivée par les cinq premières minutes de son grand meeting.
Oui, oui.
J'ai appelé Charles, c'est pas un secret d'État, j'ai appelé Charles, je lui ai dit tu regardes.
Oui.
Qu'est-ce que je t'ai répondu?
Tu m'as dit la même chose.
Mais alors, je vais
toi,
même vous faire une confidence, c'est qu'au bout de cinq minutes, le président a appelé un ami pour lui dire, bon, surtout, donnez les consignes, que personne ne réagisse en marche, il faut la laisser, parce que sinon elle sera victimisée, c'est foutu.
Il a appelé l'un de ses conseillers politiques, Thierry Solaire, qui a passé sa journée à appeler tout le monde pour qu'il se taise et pas en faire une victime. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut dire aussi que la guerre à nos portes a profité au président de la République.
Oui.
Et ça a complètement changé de toute façon.
Ça n'a pas aidé Valérie Pécresse.
La compétition, ça n'a aidé personne.
Oui, mais est-ce que cette guerre, est-ce qu'elle profite au président ou est-ce qu'elle lui nuit?
Non, elle profite jusqu'à présent. La preuve, c'est qu'il y a eu un plus, notamment traduit par les sondages quotidiens.
Mais vous venez de dire qu'il ne s'est pas occupé de la campagne et que assez.
Oui, mais au bout d'un certain temps, on en revient au problème du jour, c'est-à-dire à nos préoccupations.
Donc ma question va se poser.
Oui, on en revient au problème de la fin du mois. Parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, la politique internationale, une campagne française. Et si ça dure, la guerre, effectivement...
C'est bien pour ça que je vous posais la question.
11h-10, dans un instant, on parle de la Corse. Restez avec nous.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Catherine Ney, on craignait des débordements. Il n'y en a pas eu, mais la tension était palpable hier à Cargèse lors des funérailles d'Ivan Colonna. Des drapeaux indépendantistes frappés de la tête de mort, quelques drapeaux bretons, mais pas un drapeau français, persona non grata. 2000, 3000 personnes rassemblées tantôt au silence, tantôt entonnant le Dio vi salvi regina, l'hymne corse ou des chants indépendantistes. Cette image de la Corse qui est apparue hier, est-elle encore compatible avec la République française, Charles Villeneuve ?
Moi, je me pose la question depuis très longtemps, et d'ailleurs souvent nous conversons entre nous, est-ce que la Corse est un dossier que l'on peut résoudre ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a une solution politique au dossier Corse ? Pourquoi tous les gouvernements, quels qu'ils soient de gauche ou de droite, se sont cassés les dents sur le problème Corse ? Parce que la Corse, d'ores et déjà, avant même que ne débarque le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, était largement autonome sur plusieurs des sujets, plusieurs des questions. On va augmenter cette autonomie, à juste raison, à mon avis, de la même manière qu'on l'a fait pour les régions italiennes ou pour les régions allemandes. Pour autant, ce sont des régions aussi bien italiennes qu'allemandes qui ne se sont pas détachées du corps central politique d'unité de leur pays. De la même manière, il ne faut pas oublier que les Corses sont beaucoup amenés, notamment au corps des fonctionnaires français, au corps préfectoral, à l'armée, et puis à un certain nombre de postes régaliens. Il y a une vraie culture en Corse, notamment, il y a une histoire commune avec les Corses de la France. Moi, ce qui me fait craindre un peu, si vous voulez, l'avenir, c'est que tous les jeunes de moins de 40 ans ne connaissent pas cette histoire commune. N'a pas la culture de cette histoire entre la Corse et la France, de Napoléon à finalement la Ve République.
Gérard Carrérou.
Oui, la chose la plus terrible qui est arrivée, c'est que à cause d'un terroriste islamiste, celui qui a tué Colonna, oui.
Auxiliaire de justice,
on
Gérard.
A en plus, oui, dont on n'a pas fini de méditer les conséquences de cet acte. On s'aperçoit que finalement, il a transfiguré cet acte barbare, a transfiguré la figure d'un assassin de préfet devenu martyr d'une cause. Et c'est d'autant plus terrible que ces événements qui avaient amené cet homme à être effectivement condamné à 3 reprises, c'était effectivement des événements que la jeunesse corse d'aujourd'hui n'a pas connus, pour des raisons simplement de génération. Ça s'est passé il y a plus de 20 ans, et ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, et qui seront sans doute dans la rue la semaine prochaine, quand ils vont faire de nouvelles manifestations, ils n'ont pas connu ces événements. Ils ont l'impression qu'ils ont un martyr, alors qu'il ne s'agit que d'un assassin.
Oui, vous avez remarqué que les drapeaux ont été mis en berne sur l'île, lorsque Ivan Colonna, on a eu l'annonce d'Ivan Colonna mort, Catherine Ney.
Non, mais c'est vrai que les jeunes, ceux qui manifestaient n'étaient pas nés au moment de l'assassinat. Ce n'est pas quelque chose dont on doit parler en famille. Et là, ils ont vu, dans cet homme qui a été assassiné par un islamiste, eh bien, un héros derrière lequel, assassiné parce que pas surveillé à cause de l'État français...
Alors qu'il était DPS, donc
particulièrement surveillé. Et Gérard Darmanin a comparé son meurtre à celui de Samuel Paty.
Quelle horreur.
Donc, dire ça aux jeunes, c'est vraiment... Comment peut-on dire une chose pareille ?
C'est une faute politique ?
En tous les cas, c'est une maladresse terrible. C'est une faute politique, oui. C'est pas du tout la même chose. Un assassin de préfet, on peut pas le comparer à un professeur... qui enseignait aux élèves de la laïcité. Enfin, c'est incroyable de dire une chose pareille, parce qu'on ne peut pas le penser. Alors là, les Corses, s'il y a un malaise, parce qu'ils sont dans une île, ils sont enfermés. Quand vous disiez très bien qu'il y avait autrefois, ils allaient dans les colonies, d'ailleurs, ils avaient des postes de hauts fonctionnaires, il y avait comme ça toute une diaspora corse, et puis beaucoup dans les...
Dans la police, tout, dans
les à droite, les ministres, tous leurs conseillers étaient corses. Hein,
si, dans le grand
voilà,
aussi.
Donc, oui, non, bon, oui, peut-être. Mais là, aujourd'hui, les débouchés pour des jeunes qui vont d'ailleurs... Vous voyez, quand on va à l'université, à Corté, qui est au centre de la ville, on est comme ça. dans un lieu fermé qui n'est pas pour l'ouverture. Et en plus, quand vous voyez qu'il y a la pauvreté, il y a les difficultés d'emploi, même si l'État donne beaucoup d'argent, même si l'Europe a donné beaucoup d'argent, mais on ne sait pas, ça ne va jamais. Il y a comme ça un sentiment de coloniser contre l'État central qui ne vous envoie que des gens riches qui achètent des maisons. Voilà,
on
n'échappera
pas à un référendum. Il faudra un référendum pour régler le problème.
Mais moi, ce qui m'impressionne, je vais vous donner un chiffre. Durant les deux manifestations qui ont suivi, avant même la mort du décès de Yvan Colonna, à Bastia, a été lancé 600 cocktails Molotov. 400 avaient été saisis par les forces de sécurité avant même la manifestation, pour une ville de 50 000 habitants. Or, le ministre de l'Intérieur, quand il a débarqué en disant tout de suite, de toute façon, on va discuter de l'autonomie à son maximum, etc., il a donné une prime au cocktail Molotov. Et c'est ça que moi, je n'accepte pas.
Voilà, c'est la fin des Grandes Voix. Merci de nous avoir suivis. Et la semaine prochaine, on retrouvera bien sûr Michel Cotta en plus. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les Grandes Voix. Alors on va revenir sur le palmarès du guide Michelin ce matin. On va faire le tour des pains aussi. Des meules, des miches, des pavés, des boules, du pain qui dure, vous allez entendre. Et puis Philippe Manœuvre nous rejoint vers 11h30. A tout de suite.
A tout de suite Laurent.